La conquête du pôle par Roald Amundsen. 17 novembre. Aujourd'hui, nous commençons l'assaut des montagnes qui défendent l'approche du pôle. Pour parer à toute éventualité, je laisse au dépôt une note indiquant l'itinéraire que nous nous proposons de suivre et les ressources dont nous disposons. Le temps est superbe et la piste excellente. Les chiens surpassent notre attente en enlevant avec aisance les pentes assez raides du début. Aucun obstacle ne pourra, semble-t-il, les arrêter. En très peu de temps, les attelages parviennent au point que nous avons atteint hier et qui semblait devoir être le terme de la première étape. Sur les petits glaciers escarpés, situés plus haut, à plusieurs reprises, il devient nécessaire de doubler les équipes et de faire avancer les traîneaux deux par deux. Ces glaciers paraissent très vieux et dépourvus de toute activité. On n'y observe aucune crevasse de formation récente. Celles qui déchirent leur surface ont leurs bords arrondis et sont presque entièrement remplies de neige. Pour éviter la descente de culbuter dans ces trous, nous élevons des cairns. En passant entre ces pyramides, on est sûr de trouver un terrain solide. Le soleil est si vif et la chaleur si forte que nous marchons en bras de chemise. Dans la journée, nous passons au pied de sommets de 900 à 2100 mètres. La neige qui couvre une de ces cimes a une couleur rouge foncé. Cette première étape dans la montagne nous amène à l'altitude de 600 mètres après un parcours de 18,5 km. Le camp est établi sur une petite nappe de glace entre de larges crevasses. Une fois la tente dressée, deux reconnaissances partent examiner le terrain en avant. Wisting et Hansen remontent le glacier, lequel s'élève rapidement jusqu'à 1200 mètres et disparaît ensuite dans le sud-ouest entre deux crêtes. Dans une autre direction part Bjaaland. Trouvant sans doute la route prise par les autres trop facile, il s'attaque à un escarpement rocheux. Pendant ce temps, Hassel et moi vaquons aux occupations du ménage. Bientôt, Bjaaland est de retour. Il affirme avoir trouvé, de l'autre côté, une excellente route pour la descente. S'il est aussi belle que celle qu'il a prise pour monter, cela donne à réfléchir. Un peu plus tard arrivent les autres. Naturellement, leurs renseignements ne concordent pas avec ceux de Bjaaland. Chaque groupe vante son itinéraire et déprécie celui découvert par l'autre. Sur un point, malheureusement, tous sont d'accord. C'est qu'après cette ascension, nous serons obligés de redescendre sur un énorme glacier qui s'étend au-dessous du campement dans la direction est-ouest. La discussion menaçant de se prolonger, je vais me coucher. Le glacier situé devant nous est très escarpé. Sur une courte distance, il s'élève d'au moins 600 mètres. Réflexion faite, nous tenterons l'escalade sans doubler les attelages. Les chiens ont déployé une telle vigueur que, suivant toute probabilité, ils accompliront ce nouvel exploit. Quoique avançant lentement, ils gagnent du terrain. Lorsqu'ils paraissent vouloir s'arrêter, il suffit d'un encouragement et d'un claquement de fouet pour les remettre en route. Nous arrivons ainsi à un col. Une fois là-haut, la meute se repose, tandis que nous contemplons le panorama. Au-delà de la brèche s'étend une petite plate, large de quelques mètres, au-dessus d'une pente rapide aboutissant à une vallée. Droit devant nous, en plein sud, s'élève l'énorme chaîne Fridtjof Nansen, et un peu plus loin, la craie Don Pedro Christofferson. Ces deux reliefs sont séparés par un puissant glacier qui s'élève par étages. Il est terriblement disloqué. Entre les zones crevassées, il sera cependant possible de passer. Cette vallée nous conduira loin, mais elle ne nous amènera pas au but. Entre le premier et le deuxième étage, le glacier est rendu infranchissable par une cascade de séracs. Heureusement, le long des montagnes, un replat permettra de contourner cet obstacle. Nous élevons ici un grand cairn, puis relevons les principales montagnes en vue. Avant de commencer la descente, je retourne au col, jeter un dernier regard sur la barrière. La chaîne que nous avons découverte et qui ferme cette immense nappe de glace incline dans l'est-nord-est pour disparaître au nord-est vers le quatrième degré de latitude. Les apparences du ciel indiquent qu'elle doit se prolonger au-delà de ce parallèle. La plate au-delà du col se trouve à l'altitude de 1200 mètres. La pente est rapide. Sur une telle déclivité avec des traîneaux chargés, la plus grande prudence est nécessaire. Si les véhicules s'emballaient, les chiens pourraient être tués ou blessés et leurs conducteurs exposés à quelque accident fâcheux, sans compter que les traîneaux seraient avariés. À chaque descente de ce genre, nous freinons au moyen de cordes, garnies de pointes et enroulées autour des patins. Cette première pente nous amène dans une large vallée à 250 mètres plus bas. Après cela, nouvelle ascension sur deux glaciers très escarpés. La montée du second a été la plus dure de tout le voyage. Pour en venir à bout, il devient nécessaire de doubler les attelages. Les progrès sont naturellement très lents. Seulement, au prix d'un long et pénible effort, nous parvenons au sommet de cette déclivité haute de pas moins de 360 mètres. Là, nous nous trouvons à l'altitude de 1320 mètres sur une petite plaine, après avoir laissé souffler les chiens, en route de nouveau. Le soir venu, nous campons à la jonction d'un de ces appareils secondaires au pied du Don Pedro Christopherson. Le penchant de la crête sous laquelle nous sommes installés n'est qu'un chaos d'énormes langues de glace. En revanche, son sommet est nu. En face s'élève le Fridtjof Nansen. Son versant méridional n'est pas aussi dégagé de glace que sa face orientale tournée vers la barrière. De ces glaciers suspendus roulent sans cesse des avalanches dans des flocons de neige plus virulentes, tels les abords d'une cascade ennuagée de poussière d'eau. À l'entour de la tente s'ouvrent de nombreuses crevasses. Comme toutes celles précédemment rencontrées, elles sont, semble-t-il, très anciennes et à moitié remplies. La neige est si molle que le bâton de la tente enfonce comme dans du beurre. Quoique le thermomètre marque moins 15 degrés, le soleil brûle littéralement, une vraie sensation d'été au milieu de ce paroxysme glaciaire. Après le souper, Hansen et Bjørnland partent en éclaireur. Jusqu'au premier plateau, la route sera facile, rapporte-t-il. Au-delà, c'est l'inconnu. Le lendemain, une rude journée. Le bout de glacier à traverser, s'il est court, est singulièrement escarpé et crevassé. Là encore, impossible de faire avancer tous les traîneaux en même temps. Tellement forte est la chaleur qu'on a peine à se croire entre le 85e et le 86e degré de latitude. Quoique légèrement vêtus, on sue à grosses gouttes. Bien que nous nous élevions rapidement, nous ne ressentons ni mal de tête ni malaise d'aucune sorte. Mais cela viendra certainement. La description des souffrances éprouvées par l'expédition Shackleton sur les sommets culminants est présente à notre esprit. Très vite, relativement, nous parvenons sur le plateau. Ces pentes douces nous amènent au point où Hansen et Bjørnland se sont arrêtés hier soir. Là, nous sommes arrêtés. Resserrés entre le Fridtjof Nansen et le Don Pedro Christopherson, le glacier est disloqué dans toute sa largeur et sur une hauteur considérable. Du côté du Fridtjof Nansen, la route est également fermée. Là, le rocher s'élève à pic et à sa base, le glacier forme le plus effroyable chaos que l'on puisse imaginer. Notre seule ressource est de tenter le passage du côté du Don Pedro Christopherson. Le long de cette chaîne, la glace semble s'ajuster à une crête neigeuse par une surface relativement unie. Dans cette direction, nous pourrons, supposons-nous, contourner la chute de Serac qui nous arrête de front. Après une courte pause, de nouveau en marche. Nous sommes impatients de savoir si le passage est praticable. La pente est raide. Encore une fois, nous recommençons la manœuvre des relais. Il n'est certes pas agréable de parcourir trois fois le même chemin pour amener les quatre traîneaux au même point, mais à cela, rien à faire. Après avoir longé des crevasses, nous arrivons sur un petit monticule. Vers l'ouest, le long de la montagne, au prix d'un effort sérieux, il sera possible de passer, semble-t-il. De ce côté, la déclivité très forte aboutit à un précipice. Donc, avant de nous engager dans cette direction, nous allons voir si nous ne trouvons pas quelque chose de mieux. Quoique la journée ne soit guère avancée, nous campons. Les chiens se reposeront, pendant que trois hommes iront explorer le versant méridional de la montagne. Qu'y a-t-il derrière la crête qui nous domine? À l'approche du sommet, nous éprouvons un mouvement d'impatience. La découverte d'une route praticable aura de telles conséquences? Encore un effort. Voici le point culminant. Victoire. Nous sommes récompensés de nos peines. Nous avons découvert la brèche par laquelle peut être contourné l'énorme rempart de glace qui défend l'accès du plateau polaire. Au premier coup d'œil jeté sur le panorama, aucun doute n'est possible. Nous sommes dans la bonne route. Sous les arêtes déchiquetées de Don Pedro Christopherson, une longue plate parallèle au glacier nous amènera au-dessus de la cascade de Serac. Plus haut, l'Axelheiberg est encore très crevassé. Sur cet étage, aucun obstacle insurmontable ne semble toutefois se rencontrer. D'ailleurs, l'éloignement est trop grand pour que l'on puisse se rendre compte de la viabilité de cette partie du glacier. Afin de juger complètement la situation, nous poursuivons la reconnaissance. La neige est molle. Avec les skis, cela va encore, mais les chiens auront du mal à passer. Bientôt, de nouveau, nous rencontrons d'énormes crevasses. Elles sont heureusement espacées, et entre elles, il est facile de se faufiler. 20 novembre. Au début, l'ascension est très pénible. Les chiens ne s'en tirent pas moins admirablement. De temps à autre seulement, ils soufflent. Lorsque les équipages s'ébranlent de nouveau, les conducteurs ont alors à donner un rude coup d'épaule pour soutenir les véhicules, jusqu'à ce que les animaux soient parvenus à les déhaler. Les progrès sont très lents. Qu'importe, l'essentiel est d'avancer. À force de patience, on arrivera bien au sommet de cette pente diabolique. Plus loin, la déclivité diminue, tout en restant encore très forte. De sitôt, nous ne serons pas sur le plateau. Quel aspect présente ce plateau ? L'imagination nous le représente comme une immense plaine s'étendant à l'infini vers le sud. Aussi, quand nous l'atteignons, grande est notre désillusion. Dans la direction du sud-ouest, il paraît en effet remarquablement uni et plat. Malheureusement, notre route n'est pas de ce côté. Au sud, direction que nous devons tenir, il est tout bossué d'ondulations orientées est-ouest, engendrées probablement par le dos de terrain reliant le plateau à la chaîne s'élevant au sud-est. Nous poursuivons la marche avec ardeur, afin d'avoir le plus tôt possible une vue d'ensemble sur la région. En attendant, une grosse vague de glace nous bouche la vue. Peut-être est-ce le dernier enflement du glacier produit par un contrefort du Don Pedro. Maintenant, plus de neige molle. En revanche, des sastrugis très durs aux arêtes coupantes comme des couteaux, alignés sud-est-nord-ouest. Malgré l'effort qu'ils ont dû fournir dans la journée, les chiens emportent brillamment la position. À 8 heures du soir, nous sommes sur le plateau. À perte de vue, une immensité blanche. Au sud-ouest, des cimes très lointaines, le commencement de la chaîne s'étendant dans le sud-est et dont nous voyons maintenant le revers méridional. Le baromètre et l'ipsomètre marquent une altitude de 3180 mètres et les compteurs 31 km. Une étape de 31 km et une ascension de 1680 mètres, voilà ce dont sont capables en un jour des chiens bien entraînés en allant un poids très lourd. Sur la neige dure, il n'est pas facile de trouver un bon emplacement pour le camp. Une fois la tente montée, on me passe, comme d'habitude, les sacs de couchage et tout le matériel, puis je mets en marche le Primus et le pousse activement pour que son bruit m'assourdisse autant que possible. Tout à l'heure, en effet, va se commettre un crime horrible qui me plonge dans la plus profonde tristesse. 24 de nos excellents chiens, de nos fidèles compagnons, vont être mis à mort. C'est affreux, mais il doit en être ainsi, si nous voulons vaincre. Au premier coup de feu, quoique je ne sois pas nerveux, je tressaute. Les décharges se suivent ainsi sans interruption, abattant de braves et bons serviteurs. Chaque conducteur a tiré ses propres chiens et ensuite nettoyé et dépouillé leurs carcasses. Des monceaux de déchets rougissent la surface du glacier. Vers ce charnier, les survivants se précipitent aussitôt. L'un d'eux, particulièrement vorace, avale les entrailles encore toutes chaudes d'un camarade. D'autres, au contraire, font pour le moment les dégoûter. Plus tard, eux aussi, ils y viendront. Cette boucherie nous enlève toute joie. Malgré le succès de la journée, la soirée s'écoule morne et pesante. L'exploration a ses cruelles nécessités. Nous séjournerons ici 2 jours pour nous reposer et pour laisser se refaire nos attelages réduits. Lorsque, pour la première fois, fut envisagée la nécessité d'abattre une partie des chiens à notre arrivée, plusieurs s'étaient récriés à la pensée de manger notre cavalerie. Depuis quelques jours, une évolution s'est faite parmi les récalcitrants. Cette viande n'éveille plus la même répugnance. Pendant la nuit, la température devient très basse et le vent souffle avec violence. Cela n'empêche pas la meute de dévorer les dépouilles de ses malheureux frères. Au réveil, dès qu'on ouvre l'œil, on entend les craquements d'os. Les effets de notre rapide ascension commencent à se manifester. Lorsque je me retourne dans mon sac de couchage, je dois accomplir l'opération en plusieurs temps pour ne pas perdre haleine. Tous mes camarades sont dans le même cas. 7 décembre. Nos vœux sont exaucés. Le soleil se montre. Il n'est pas très net, mais nous sommes habitués à observer dans de mauvaises conditions. Résultat, 98°16', exactement la latitude donnée par l'estime. Si d'ici au pôle les circonstances atmosphériques nous empêchent de prendre des hauteurs solaires, nous pourrons avoir confiance dans notre estime et déterminer par ce moyen nos positions ultérieures. Nous voici arrivés à un moment palpitant. Dans quelques heures, nous dépasserons la latitude la plus extrême qui ait été atteinte dans le sud. Pour fêter cet événement, nous gréons le pavillon sur un bâton. Dès que le 88e degré 23, le terminus de raid de Shackleton, sera dépassé, l'étendard national sera déployé au-dessus de cette terre vierge. Je marche machinalement, plongé dans une profonde rêverie. À quoi songeais-je? Je ne me souviens plus. En tout cas, je suis si absorbé que j'oublie complètement la situation. Tout à coup, j'entends des cris, des hurrahs. Immédiatement, je me précipite pour connaître la cause de cette extraordinaire rumeur. Alors seulement, mon rêve se dissipe. La colonne a fait halte, et en avant des traîneaux, le pavillon norvégien claque joyeusement au vent, dans la clarté de l'horizon blanc. 88 degrés, 23 minutes de latitude, nous avons dépassé l'extrême point austral que l'homme est touché. Une émotion violente me saisit. Je pleure comme un enfant. Lorsque j'ai rejoint mes camarades, je presse affectueusement leurs mains. Nos pensées se reportent alors vers l'homme énergique qu'il y a 22 mois planta le pavillon britannique si près du but, et du fond du cœur, nous rendons hommage à Sir Ernest Shackleton. Dans l'histoire des découvertes antarctiques, le courage et l'énergie déployés par ce vaillant explorateur lui assurent une place de premier rang. 14 décembre. Temps magnifique. Le déjeuner est rapidement avalé. Les préparatifs du départ ne traînent pas non plus. Chacun a hâte d'arriver. Nous avançons dans l'ordre habituel. Un éclaireur, Hansen, Wisting, Bialand et un homme à l'arrière-garde. Vers 10 heures du matin se lève une légère brume de sud-est et le ciel se couvre. Par suite, impossible d'observer à midi. La latitude estimée est à ce moment 89 degrés 53 minutes. D'un trait, nous allons enlever le reste. À 3 heures, la colonne s'arrête. Les compteurs indiquent que depuis la halte de midi, nous avons parcouru exactement 12 950 mètres. Nous avons donc touché le but. Notre entreprise est accomplie. Je ne puis dire que j'ai réussi à remplir la mission que je m'étais assignée dans cette vie. Depuis mon enfance, le pôle Nord a été l'objet constant de mes rêves, et c'est le pôle Sud que je conquiers. Nous n'avons pas la prétention d'avoir touché le point mathématique par lequel passe l'axe du globe. Avec le temps et les instruments dont nous disposions, il nous est impossible de déterminer son gisement exact. Nous en sommes à quelques kilomètres, à droite ou à gauche, en avant ou en arrière. Cela n'offre d'ailleurs aucune importance. Pour éviter au retour toute contestation à ce sujet, nous parcourons autour du camp une circonférence de 18,5 km de rayon. Aussitôt après avoir fait halte, nous nous adressons de mutuelles félicitations, puis nous procédons à une cérémonie émouvante. Le pavillon national est déployé. Devant l'emblème de la patrie, un sentiment de fierté nous saisit. En même temps, nos pensées s'envolent vers le pays aimé, vers cette rude terre de Norvège que nous chérissons. Dans le pénible combat que nous avons soutenu, mes compagnons ont lutté avec une égale énergie et ont exposé leur vie avec le même dévouement. Après avoir été à la peine, tous doivent donc être aujourd'hui à l'honneur. Aussi bien le pavillon sera planté non point par un seul, mais par notre petite troupe tout entière. Par cette manifestation, je vais témoigner ma reconnaissance à mes collaborateurs. Saisissant tous les 5 lampes, nous élevons le pavillon et d'un seul coup l'enfonçons dans la glace. Ainsi s'achève la conquête du pôle par Roald Amundsen.